VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du jeudi 19 novembre 2015. Au sommaire ce soir.
En France, les autorités confirment la mort d'Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attentats du 13 novembre à Paris.
Nous parlerons aussi de Molenbeek, ce quartier populaire de Bruxelles au centre de l'enquête.
La commune de Molenbeek, c'est un endroit où on va trouver une population très concentrée. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de délinquance et il y a du radicalisme depuis de nombreuses années.
Burundi, signe d'une tension persistante. Deux obus seraient tombés la nuit dernière près du palais présidentiel, sans faire toutefois de victimes.
Et c'est une première aux Émirats arabes unis. Une femme a été élue mercredi à la tête du Parlement.
C'est quelqu'un qui a travaillé à l'international et au niveau de son pays, au niveau de la région arabe également, beaucoup sur les questions de l'habilitation des femmes.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Suite de l'enquête sur les attentats de Paris, au lendemain de l'assaut spectaculaire mené par les forces spéciales françaises à Saint-Denis, les responsables de l'investigation ont annoncé qu'un des deux djihadistes morts lors de cette opération est Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats du 13 novembre. Attentat qui en fait, on se le rappelle, 129 morts et 350 blessés. Les détails avec notre correspondant à Paris, Christian Mbonzo.
Il aura fallu 24 heures aux enquêteurs de la police scientifique pour formellement identifier Abdelhamid Abaoud. Ce terroriste belge de 28 ans, maillon important de l'État islamique, était la cible numéro 1 de l'assaut des forces spéciales à Saint-Denis. Les autorités n'ont pas encore déterminé les causes exactes de sa mort, mais il aurait vraisemblablement été abattu par un sniper. La mort d'Abdelhamid Abaoud, le commanditaire présumé des attentats, est une victoire considérable pour la justice française, un coup dur porté à Daesh, mais elle soulève aussi une question. Comment un djihadiste impliqué dans plusieurs tentatives d'attaque terroriste et visé par un mandat d'arrêt international a pu voyager à travers l'Europe depuis la Syrie sans être inquiété ? En guise de réponse, le gouvernement français vient de prolonger l'état d'urgence jusqu'en février prochain. L'Assemblée nationale l'a voté de manière quasi unanime. Cette mesure devrait faciliter le travail de surveillance et d'investigation des enquêteurs. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Ici à Washington, la Chambre des représentants devait voter cet après-midi sur une proposition de loi de la majorité républicaine qui imposerait une pause dans la réinstallation de réfugiés irakiens et syriens aux États-Unis. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Le président Barack Obama a d'ores et déjà menacé d'user de son veto si la Chambre basse et le Sénat venaient à adopter le texte qui vise les réfugiés syriens. Il s'est engagé à en admettre 10 000 pendant le prochain exercice fiscal. Pour la Maison-Blanche, la proposition de loi des Républicains ajouterait des exigences non nécessaires et pas pratiques au processus de triage des réfugiés. Mais le président de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères, le républicain Bob Corker, n'est pas convaincu. Quelqu'un doit expliquer clairement au peuple américain les processus que nous utilisons avant d'admettre des réfugiés dans notre pays. Pour sa part, le président de la Chambre, le républicain Paul Ryan, préconise une pause dans l'entrée des réfugiés syriens, disant que l'on ne devrait pas permettre aux terroristes d'exploiter la compassion du pays. Quant au président Obama, il estime qu'arrêter le processus de réinstallation des réfugiés reviendrait à céder à la peur.
We don't make good decisions if...
Nous ne prenons jamais de bonnes décisions si elles sont fondées sur de l'hystérie ou une exagération des risques. Plusieurs députés démocrates appuient la position de M. Obama et se disent confiants dans le système actuel de vérification.
Au Burundi, les habitants de la capitale affirment que deux obus sont tombés la nuit dernière près du palais présidentiel sans faire de victimes. Cette information a été corroborée par les sources diplomatiques, mais pour le porte-parole de la police, c'est un pur mensonge. Le mois dernier, des obus avaient été tirés vers le même secteur à partir des hauteurs surplombant Bujumbura. Le reportage de Christophe Kurunziza.
Des sources de la population interrogées indiquaient qu'elles ont entendu mercredi vers minuit des obus de mortier qui étaient lancés vers le quartier de Kiriri, quartier où se trouve le palais du numéro 1 burundais. Mais ces obus sont tombés, selon les mêmes sources, près des résidences de deux diplomates étrangers. Aucun dégât, ni humain ni matériel, n'a été constaté. Cette information a été confirmée par certaines ambassades de Bujumbura. Ces obus, entendus vers minuit par certains habitants de la capitale, auraient été tirés depuis les montagnes qui surplombent la capitale, jadis bastion des différentes rébellions Hutu. Contacté, le porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye, assure qu'il a entendu parler de ce mensonge, car après vérification sur place, cet incident n'a jamais existé. En octobre dernier, des obus de mortier avaient été tirés depuis ces montagnes vers le même quartier de Kiriri, sans toujours faire de victimes. Depuis avril dernier, la violence s'est intensifiée entre les forces de l'ordre et ceux qui sont qualifiés d'insurgés par le régime de Bujumbura. Plus de 200 personnes ont été tuées au cours de ces affrontements. La communauté internationale appelle les parties en conflit à un dialogue qui représente toutes les parties. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La force de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, semble vouloir se défaire de son contingent de la RDC. La décision serait liée à de présumés abus sexuels par des militaires congolais en RCA. Thierry Kambundi de Top Congo FM à Kinshasa a assisté à une conférence de presse du porte-parole gouvernemental Lambert Mende.
Des éléments de nos forces armées déployés en République centrafricaine ont peut-être commis depuis qu'ils sont dans ce pays frère des actes répréhensibles pendant leur mission. Mais rien, absolument rien, ne permet d'affirmer qu'ils se soient rendus coupables de ces abus sexuels, du moins jusqu'à preuve du contraire, parce que nos magistrats doivent encore conclure. Et vous savez que le temps de la justice est différent du temps des médias. Nous nous trouvons manifestement en présence d'une de ces campagnes de dénigrement de nos forces armées, dont il faut interroger les soubassements. À ce sujet, la position du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la position du gouvernement de la République et du haut commandement militaire est claire. Tout membre du contingent cité dans une affaire de ce genre est automatiquement rapatrié en République démocratique du Congo pour faire l'objet d'enquêtes.
Modification de la Constitution au Soudan du Sud. Le Parlement a approuvé un amendement permettant au président de créer de nouveaux États. C'est ce que rapporte l'AFP. Une réforme décriée par la rébellion de Riek Machar, estimant qu'elle rend obsolètes les complexes dispositions clés sur le partage du pouvoir basé sur 10 États. Le texte pourrait donc menacer l'accord de paix entre le gouvernement et les insurgés.
Lutte contre la corruption au sein des forces de sécurité au Nigeria. Une unité spéciale chargée de recevoir les plaintes des victimes présumées de brutalité policière a été créée par la police, indiquent les autorités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'organisation djihadiste État islamique a exécuté 5 hommes qu'elle décrit comme des espions, d'après des photos publiées ce jeudi sur Internet. L'authenticité de ces images n'a pas encore été établie, souligne l'AFP, tout en suggérant que les 5 auraient été fusillés dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. Depuis plusieurs mois, il faut dire que les forces gouvernementales cherchent à reprendre le contrôle de la capitale régionale, Ramadi, occupée par Daesh.
Les combats se poursuivent au Yémen entre la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite et les rebelles chiites soutenus par l'Iran. À Taiz, dans le sud-ouest du pays, au moins 10 combattants ont été tués aujourd'hui, y compris 2 soldats loyalistes. Depuis l'intervention étrangère en mars dernier, plus de 5700 personnes ont trouvé la mort au Yémen, selon des estimations de l'ONU.
Un Israélien a été tué et plusieurs autres personnes ont été blessées en Cisjordanie occupée quand un ou plusieurs individus ont tiré sur eux depuis une voiture près de colonies israéliennes au sud de Bethléem. C'est ce qu'a indiqué la police israélienne. Au moins un Palestinien a été neutralisé, a-t-elle dit. Les circonstances et le nombre d'agresseurs ont donné lieu à des versions confuses de la part de la police et de l'armée israélienne.
Le Vatican ne prévoit pas de changement dans l'itinéraire du pape François en Afrique la semaine prochaine. En dépit des violences en Centrafrique, le Saint-Père est attendu notamment à Bangui, une capitale souvent en proie à des affrontements intercommunautaires. Il doit se rendre aussi en Ouganda et au Kenya. Dans une conférence de presse, le porte-parole du pape, le père Federico Lombardi, n'a pas exclu une annulation au dernier moment ou un voyage raccourci si les conditions sur place l'exigent.
Le gouvernement égyptien a signé un accord avec la Russie en vue de la construction d'une centrale nucléaire en Égypte. Cette première centrale fera de l'Égypte un leader régional en termes de technologie et le seul pays dans la région disposant d'une centrale nucléaire de troisième de génération plus 3, a déclaré Sergueï Kirienko, directeur général de l'Agence fédérale de l'énergie atomique en Russie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Au Botswana, le deuxième plus gros diamant au monde depuis un siècle vient d'être découvert dans la mine de Karowe, au centre-est du pays. La mine de Karowe est exploitée par la société canadienne Lucara. S'il est impossible pour le moment de déterminer la valeur de la gemme qui pèse 1111 carats et a le volume d'une balle de tennis, les experts estiment qu'elle a le potentiel pour être, je cite, « extrêmement chère ». Le Botswana est le deuxième pays producteur de diamants au monde après la Russie. L'organisme de financement du commerce extérieur du Canada, l'EDC, a ouvert une succursale à Johannesburg, un signe de son engagement en faveur du développement des affaires en Afrique subsaharienne. Les actions de l'EDC ont permis aux entreprises canadiennes et africaines de générer plus de 7,4 milliards de dollars américains ces cinq dernières années. Objectif des cinq prochaines années, 10 milliards de dollars américains. Au Libéria, ArcelorMittal va licencier 450 personnes avant la fin de l'année, contre-coup des pertes enregistrées par le groupe de sidérurgie après la chute mondiale des prix du minerai de fer et aussi la baisse de la demande chinoise. En août, au moment de la fermeture des mines pour cause d'Ebola, ArcelorMittal avait assuré qu'il espérait reprendre rapidement les travaux pour tripler la production à 15 millions de tonnes d'ici fin 2015. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, les pertes enregistrées s'élevaient à 1,26 milliard, soit près de 10 fois plus que l'année précédente à la même période.
La Minute Éco, merci Anastasie.
Place à l'actualité sportive, nous avons avec nous Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Gabi.
On va parler tout d'abord de cette troisième et dernière réunion de la commission de réforme de la FIFA.
Oui Gabi, cette commission veut redonner de la crédibilité à une institution en pleine crise et se réunit aujourd'hui et demain à Zurich pour finaliser ses propositions. Primo, limiter à 12 ans les mandats cumulés du président et à 74 ans l'âge maximum. Secundo, mieux contrôler l'intégrité des membres du comité exécutif. Tertio, rendre publique la rémunération du président et des membres du gouvernement du football mondial. Les propositions retenues seront d'abord soumises au comité exécutif début décembre, puis au congrès de la FIFA en février et l'élection Gabi du successeur de Joseph Blatter est prévue dans plus de 3 mois.
La grande question, est-ce que Michel Platini sera candidat? Il n'est que d'attendre.
Ouais, il a interjeté appel. On attend pour voir ce que ça va donner.
En France, malgré les attentats de Paris, les matchs de championnat ne sont pas suspendus.
Effectivement, Gabi, mais c'est dans une ambiance particulière que les matchs se joueront ce week-end. Le ministère de l'Intérieur a interdit le déplacement des supporters à l'extérieur et les clubs hôtes ont pris des mesures particulières pour assurer la sécurité des spectateurs pour éviter ce qui allait arriver vendredi. Les djihadistes s'attendaient à déclencher l'apocalypse au Stade de France à Saint-Denis.
Oui, où la France affrontait l'Allemagne en match amical. Et en Espagne?
Avant le Classico de samedi, Real Madrid-FC Barcelone, le duel des entraîneurs Enrique Benitez, la glace et le feu.
À vous de choisir, Eric. Rugby. Richie McCaw quitte les All Blacks.
À 34 ans, l'emblématique capitaine des All Blacks, Richie McCaw, détenteur du record mondial des sélections 148 au total, a annoncé sa retraite aujourd'hui à Wellington, 3 semaines après avoir soulevé la Coupe du Monde de William Webb Ellis pour la 2e fois.
Enfin, en athlétisme.
Oui, les athlètes russes veulent réintégrer les compétitions. Le comité olympique russe a annoncé ce mercredi la création d'un comité ad hoc chargé de nettoyer la Fédération russe d'athlétisme accusée par les instances internationales de dopage organisé. Eh bien, les sportifs à la retraite ou encore en activité, Ed Moses et Kirsty Coventry, membres du conseil de l'Agence mondiale antidopage, AMA, attendent des instances sportives internationales plus d'intransigeance.
Voilà pour les sports. Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour.
Molenbeek, quartier populaire de Bruxelles, est au centre des enquêtes de la police après les attentats qui ont fait 129 morts et plus de 350 blessés à Paris, c'était vendredi soir. Le djihadiste belge Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé de ces attaques, a été tué hier pendant l'assaut des forces de police à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Sur le parcours de ce djihadiste belge et d'origine marocaine, Idriss Fall a joint à Bruxelles Claude de Moniquet, expert en renseignement.
Abdelhamid Abaoud, c'était l'un des principaux organisateurs de l'État islamique pour les combattants francophones. Un garçon qui vient de la commune de Molenbeek à Bruxelles, qui était né dans une bonne famille de commerçants, qui travaillait dur, qui ont essayé de lui faire faire de bonnes études. Lui n'a pas tellement suivi cette voie-là, puisque assez rapidement il est tombé dans une sorte de petite délinquance avant de se radicaliser, puis de partir vers la Syrie dès 2012. Et en Syrie, il a rapidement trouvé sa place au sein de l'État islamique où il était à la fois un espèce de bourreau, peut-être un artificier, et certainement un propagandiste et un organisateur.
Comment se fait-il que depuis 2012, les services secrets ne sont pas arrivés à mettre la main sur lui?
Mais parce que d'abord, il a quand même passé la plupart du temps en Syrie, où il est quand même difficile d'agir et où il n'a pas été repéré tout de suite. Donc quand on a repéré sa dangerosité, comme beaucoup d'autres, il a pu échapper au bombardement et à ce genre de choses. Il est venu en Europe effectivement à plusieurs reprises, au moins à deux reprises. En janvier, il était entre la Belgique et la Grèce. Ces derniers jours, manifestement, il était entre la Belgique et la France. Mais vous savez, il y a énormément de gens qui se déplacent avec des faux papiers ou qui sont des criminels, qui sont recherchés parfois pendant des années ou des dizaines d'années, sur lesquels la police ne met jamais la main.
Quels sont ses rapports avec les autres attentats qui ont pu être commis en Europe?
On lui reproche d'avoir été l'organisateur de 4 ou 5 attentats qui ont échoué en Europe cette année. Avant ce vendredi, bien sûr, des attentats préparés en Belgique qui avaient échoué suite à l'élimination de 2 terroristes le 15 janvier dernier par la police belge. Puis l'affaire du Thalys, le train grande vitesse entre Bruxelles et Paris qui avait été attaqué par un homme qui n'était pas arrivé à ses fins. Des attentats contre des églises dans la banlieue de Paris qui ont échoué suite à la maladresse d'un des terroristes et un ou deux autres. Donc c'était quelqu'un qui avait de la suite dans les idées malheureusement et qui avait une volonté réelle de frapper la France.
Et la commune de Molenbeek alors c'est quoi? On en parle beaucoup maintenant.
La commune de Molenbeek, c'est un endroit où on va trouver une population très concentrée, d'origine marocaine, ce qui n'est évidemment pas un problème, mais avec des conditions sociales qui ne sont pas exceptionnelles pour beaucoup d'entre eux, donc des taux de chômage très élevés dans la jeunesse, ce qui rend la jeunesse assez sensible à tout ce qui est économie parallèle, économie informelle, donc il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de délinquance, et il y a du radicalisme depuis de nombreuses années.
Claude Moniquet, expert en renseignement en Belgique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et cap sur N'Djamena, le Parlement tchadien a adopté à l'unanimité une résolution prolongeant de 4 mois l'état d'urgence dans la région du lac Tchad, où sévit la secte Boko Haram. Timothée Donangmaï a joint Zara Afono, une députée du département de Mambi, dans cette même région.
L'état d'urgence, c'est toujours par rapport à la réaction et aux attentats terroristes. Quand on connaît la région précisément au niveau de Bagassola et au niveau de Ngoboa, Tchoukoutélia, donc raison pour laquelle pour beaucoup plus mettre vraiment des visus, c'est-à-dire c'est pour attirer, mettre l'attention et contrôler, sécuriser la zone que l'Assemblée nationale a posé et le délai de d'urgence.
Qu'est-ce qui a été déjà accompli depuis l'instauration de l'état d'urgence? Dans le lac?
Bon, depuis l'instauration de l'état d'urgence, l'état d'urgence a été d'abord limité à quelques jours, et les jours étaient épuisés. Et là, et la zone a reçu vraiment une attention particulière des autres autorités. Ça a été renforcé.
En juin dernier, le président Idriss Déby Itno s'était inquiété de l'adhésion des jeunes du lac à Boko Haram. Est-ce que c'est toujours une inquiétude aujourd'hui?
Bon, l'adhésion, là, c'est les terroristes. C'est le terrorisme. Il n'y a pas une adhésion comme ça en tant que tel. Il n'y a pas une adhésion, mais voilà la situation. Quand ça arrive... L'inquiétude, c'est pour tous les Tchadiens, et plus précisément, le président vraiment inquiet. Et donc, il a couru au secours et il a renforcé la sécurité.
Zahra Afono, une députée du département de Mambi, dans la région du lac Tchad.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Nous allons maintenant parler d'apiculture. Vous aimez les abeilles, Morgane?
Elles me font un peu peur.
Parfois, moi aussi. Maintenant, on va parler de l'élevage des abeilles au Cameroun. Et dans ce pays, cela contribue fortement à la lutte contre le chômage. Et le gouvernement a mis en place des politiques d'incitation, avec notamment l'ouverture de cette filière dans les écoles d'agriculture. Environ 20 000 jeunes trouvent leur compte dans la culture des abeilles.
Et cette activité, qui fournit jusqu'à 80% de leurs revenus annuels, tarde néanmoins à se développer. C'est à cause de certaines difficultés liées au matériel de travail. Le reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
C'est le bruit qui vous accueille lorsque vous vous approchez des essaims d'abeilles d'Awanga Timothée. Le jeune Camerounais produit du miel depuis bientôt 20 ans à Bitom, son village, après des études supérieures à l'université de Yaoundé 1.
Il faut juste enfermer les abeilles dans leur ruche. Et ça ne se fait que dans la nuit. Donc, vous arrivez de là où il y a la colonie, vous l'enfermez dans la ruche et vous transportez la ruche simplement. Le problème, c'est que dans la journée, certaines abeilles sont à la recherche des provisions pour la colonie. Donc, ce n'est que la nuit qu'on retrouve toutes les abeilles en place. Donc, c'est le moment de les porter. Parce que si on les transporte dans la journée, on va trouver que les meilleures abeilles sont dehors.
Grâce à son expérience, Awanga Timothée forme les jeunes dans ces domaines. Patrice Bulunga est l'un des 200 personnes formées.
Dernièrement, à la télé, j'ai quand même vu qu'on commence déjà à élever les abeilles aussi au Cameroun pour faciliter l'accès au miel. On nous a fait comprendre que le miel avait des vertus thérapeutiques. Il y a par exemple, il permet de faire disparaître les cicatrices. Il y a des diabétiques qui utilisent le miel.
Timothée Awanga enregistre environ 500 000 essaims d'abeilles. De quoi assurer son épanouissement social?
Il faut multiplier autant que possible les colonies d'abeilles qui existent. Ne jamais les détruire. Au contraire, nous devons plutôt les multiplier pour en avoir plus. Nous avons des sites disponibles. Nous avons des abeilles disponibles. Nous avons du bois disponible. Alors qu'est-ce qui nous empêche de faire l'apiculture? Tout le monde devrait comprendre que si nous avons plus d'abeilles, nous aurons plus de végétaux et tous les animaux, par exemple, et tous les humains qui vivent autour de ces végétaux seront à l'aise.
Le gouvernement camerounais fait du miel un instrument de lutte contre le chômage. La culture d'abeilles est désormais inscrite dans les programmes de formation en agriculture. Le docteur Taïga est le ministre camerounais de l'élevage.
Ce centre forme des jeunes qui sont destinés à pouvoir pratiquer le métier et en faire un emploi et devenir de ce fait des entrepreneurs. Et il s'agissait donc de former des jeunes et de les insérer dans le circuit de l'emploi en tant que producteurs et même en tant que créateurs d'emplois.
Des sources officielles, 20 000 Camerounais produisent du miel par la culture des abeilles, même si ces personnes font face à certains problèmes dont l'effet de brousse et le manque d'équipement. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Une femme a été élue mercredi pour la première fois à la tête du Parlement des Émirats Arabes Unis.
Amal Al-Kubaisi a été élue présidente du Conseil national fédéral à l'issue d'une réunion du nouveau Parlement. Architecte de formation et ancienne ministre de l'Éducation, elle est très appréciée par la classe politique, les femmes et les jeunes. Nathalie Barge a joint à Genève Zeyna Hilal, chargée du programme Participation politique des femmes à l'Union interparlementaire.
Je connais personnellement bien Dr Amal Al-Kubaisi. Elle est une des parlementaires très actives au sein de l'Union interparlementaire. Dr Al-Kubaisi a été représentante de la région arabe dans notre comité des femmes parlementaires. Elle a aussi été une instigatrice de notre forum des jeunes parlementaires de l'UIP. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé à l'international et au niveau de son pays, au niveau de la région arabe également, beaucoup sur les questions de l'habilitation des femmes, sur les questions du renforcement de la participation des femmes en politique et de la participation des jeunes également. Nous sommes absolument ravis de son élection à la tête du Conseil national des Émirats arabes unis.
Comment expliquer son élection ? Parce que, disons, c'est un petit peu surprenant pour un pays comme les Émirats arabes unis, non ?
C'est surprenant d'un côté parce que dans la région arabe, c'est la première femme à prendre cette position de présidente de parlement. C'est évidemment une excellente surprise. Cela dit, il ne faut pas oublier que les Émirats arabes unis, depuis 2006, sont passés de zéro femme parlementaire à une proportion de 22,5% de femmes au parlement. Ce n'est pas très surprenant quand on connaît Dr Amal Al-Kubaisi. C'est quelqu'un qui a fait un excellent travail dans son Parlement. Elle a également fait un excellent travail en tant que ministre, parce qu'elle a été ministre de l'Éducation. C'est quelqu'un qui a représenté son pays à l'international de la meilleure manière qui soit. C'est une personne très active, qui est bien sûr soutenue par une base dans son pays.
Qu'est-ce que cela représente ? Qu'est-ce que cela va changer finalement pour le pays, notamment pour les femmes ? Est-ce que cela veut dire peut-être plus de liberté dans l'avenir ?
À mon sens, bien sûr, ça va améliorer les choses. D'abord, avoir une femme présidente de Parlement permet d'avoir une femme modèle pour beaucoup de jeunes filles et beaucoup d'autres femmes dans le pays pour les intéresser à la politique.
Elle est jeune et elle est aimée par la jeunesse, c'est ça ?
Effectivement, oui, effectivement, par les femmes et par la jeunesse, oui. C'est également quelqu'un qui a fait sa place en politique, qui est écouté, qui est extrêmement respecté et qui va certainement pouvoir guider son Parlement vers des législations, vers des politiques probablement plus centrées sur la population, les besoins de la population et notamment donc les besoins des femmes.
Zeyna Hilal, chargée du programme Participation politique des femmes à l'Union interparlementaire.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est tout pour Le Monde aujourd'hui, ce 19 novembre. On remercie Lionel Gaïma à la production, Monsieur Remkus à la console. Présentation Morgane Guiriec et chez Robin Orsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.